Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. La maladie mentale et les troubles psychiques touchent un Français sur cinq. Donc non seulement on est très susceptible d'être soi-même un jour concerné, mais surtout, avec cette prévalence, c'est quasiment impossible que nos proches y échappent. Dans ce cas-là, l'amour qu'on leur porte peut faire beaucoup. Mais quand la chimie du cerveau est déréglée, parfois ça ne suffit pas. S'ensuit alors de l'incompréhension. Pourquoi cette personne, que je connais par cœur, me semble tout à coup étrangère ? Vient la culpabilité. Est-ce que c'est de ma faute ? Accompagné d'un sentiment de responsabilité. Si c'est de ma faute, ça veut aussi dire que je peux le sortir de là. Et puis, il y a la colère, la tristesse et le besoin de s'armer de beaucoup de patience. Ce qui m'intéresse dans l'histoire que vous allez entendre, c'est comment la maladie mentale vient modifier la relation initiale entre deux personnes. Que ce soit une relation amoureuse, amicale, fraternelle. Comment préserver cette relation-là ? Comment prendre soin de l'autre sans que la relation soignant-soignée n'étouffe tout le reste et n'engloutisse tout ? Dans cet épisode, l'histoire de Solal et Louis, à la base, des copains qui aiment bien faire la fête ensemble, au micro de Louise Tavera. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
Je rencontre Solal le jour de la rentrée de notre école. On a une sorte de présentation du cursus qui dure 2 heures. Et après, on sort dans la cour ensoleillée de l'école. Moi, je dois être avec 5 ou 6 personnes qui étaient dans ma classe. Et Solal se greffe à notre groupe. On se retrouve en terrasse d'un café où il y a beaucoup d'animation. Moi, je suis à côté de Solal, il est à ma droite. On fait tous les deux dos à la rue. Il fait très beau, je me souviens qu'il est en t-shirt. On fait un peu le tour de table informelle, ouais, tu viens d'où, nanana. Et en fait, toute mon attention est accaparée par Solal, parce qu'il a un truc assez fascinant, il a une confiance en lui, une nonchalance, une aisance assez remarquable, je le trouve assez solaire. Il se marre beaucoup, il parle fort, il fait marrer aussi. Je suis assez impressionné par cette confiance qu'il dégage, et en même temps, je ressens une forme de gêne, parce que comme il me parle beaucoup, je me retrouve obligé de lui répondre, alors que, je sais pas, moi, quand je suis avec des gens que je connais pas trop, je suis un peu discret, et donc ce mélange de fascination pour ce personnage et de malaise, parce qu'il m'oblige à être à la hauteur de l'échange, alors qu'au fond, je suis pas dans un très bon mood.
Et donc, moi, je me rapproche de Louis, là, dès la première rencontre.
Je dirais pas qu'il m'impressionnait. Je dirais que j'ai senti une amitié naturelle tout de suite. Moi, ce jour-là, je suis assez excité quand même. Parce qu'en fait, j'ai appris que j'avais cette école en début d'été. J'étais très content après 2 années de prépa. J'étais pas dans un état normal. Parce que j'avais passé l'été, en fait, à publier sur des groupes Facebook de mon école de manière un peu erratique, tard, un peu bourré. Et donc, en fait, j'arrive en école, j'ai déjà une image auprès de toute la promo d'au-dessus, je me suis fait un peu cataloguer. Et donc, je suis content de rencontrer des gens de ma promo, avec qui j'espère je vais devenir pote très vite. L'école de commerce, c'est la fiesta, les assos. Pour moi, j'ai l'impression de rentrer dans un camp de vacances pour adultes, quoi.
Les semaines passent, on se fait assez potes avec Solal, mais on n'est pas dans la même classe, donc on se voit pas tous les jours, mais quand on se croise dans les couloirs de l'école, on se marre. Comme dans toutes les facs, il y a des associations d'étudiants, et c'est le moment où les nouveaux essayent de rejoindre les associations qui correspondent à leur passion, leurs loisirs, machin. Moi, je rejoins une asso de musique, et en fait, Solal, au départ, ne rejoint aucune association, parce que finalement... Il n'a pas tellement suscité l'adhésion. C'est un peu comme s'il était too much, qu'il en faisait trop. Et peut-être même que certains le trouvent un peu lourd, je pense. Il se retrouve finalement un peu esselé. Et un soir, je suis dans le local de mon association avec des copains. C'est un local un peu ambiance ado, avec des graffitis sur les murs, des néons. Et c'est un local qui est assez sombre. La porte du local est ouverte et donne sur le couloir. Le couloir, lui, est éclairé par des néons style hôpital. C'est une lumière blanche, un peu blafarde. Nous, on est posés, on écoute de la musique, on fume des cigarettes, on boit des verres. Et à un moment, Solal se présente sur le seuil de la porte et il a le crâne complètement rasé à blanc, c'est-à-dire pas 2 mm. Il est rasé à blanc. Il a une sorte de petite veste en cuir légère. Il se pose comme ça sur le seuil de la porte avec un verre à la main et un regard illisible. Puis il a un sourire un peu étrange... Et il nous parle comme ça, et en fait, il y a ce phénomène un peu con, qui est que ben, si tu fais pas partie de l'association, t'es pas tellement censé rentrer dans le local. Moi, je m'en fous, mais les autres élèves sont un peu gênés. Et il nous parle comme ça, et en fait, à voir ce regard que j'arrive pas à déchiffrer, je me dis que ce personnage me fait presque un peu peur, en fait. C'est un gars, j'aurais la flemme de le croiser dans une ruelle sombre, quoi. Je sais pas ce qu'il pourrait faire. C'est vraiment ce truc illisible où tu te dis, mais ouais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quoi? Je décide pas d'arrêter de le voir pour autant, y a pas de problème, mais j'ai comme une forme de méfiance qui naît ce jour-là, après avoir croisé ce regard qui m'a perturbé, quoi.
Un jour, on est en soirée étudiante, mais à l'extérieur de l'école. C'est une soirée, voilà, on est une 15-20, et je dors chez les gens qui m'accueillent. Et en fait, je dors pratiquement pas. Donc la soirée se termine, et moi, je continue tout seul. J'ai le souvenir d'être dans le salon de mon pote. Il y a de la musique sur sa grande télé. Ils avaient laissé de quoi fumer des joints sur la table, et je me roule un joint tout seul, chose qui m'arrive jamais. Et donc, je fume tout seul. Je finis l'alcool qui reste tout seul. Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'être dans un clip de rap d'Eminem. Je me rappelle très bien voir sur le grand écran la chanson d'Eminem, qui est pleine de feu. Je pense que c'est un featuring avec Rihanna. Je sais pas ce qui me prend, j'avais les cheveux longs à ce moment-là, et je me fais cramer les cheveux en fait. J'avais envie de me couper les cheveux, mais voilà, j'ai pris la méthode la plus débile. Je regarde contre les vitres de l'appartement, et je vois mes cheveux brûler. J'ai l'impression d'être dans un clip, je trouve ça incroyable. Vu que le briquet, c'est pas une paire de ciseaux, il faut évidemment recouper tout ça. Et là, j'ai la bonne idée pour recouper tout ça, de faire ça au rasoir, dans la salle de bain de mes amis. Après cette soirée, en fait, moi, je me réveille le matin... forcément un peu barbouillé. Le pote chez qui on est, évidemment, on me demande, mais qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai aucune tête, j'ai les cheveux en pagaille, c'est n'importe quoi. Il y a des poils de mes cheveux qui se traînent dans le lavabo, dans la cuisine, enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, il m'engueule parce que je lui ai fumé son joint. Ça me passe un peu au-dessus de la tête. Pour moi, c'est pas très grave. Ouais, voilà, il y avait un joint, je l'ai fumé, il y a des cheveux qui ont été brûlés. Enfin, pour moi, c'est pas très important. Et donc, je retourne à ma vie d'école. Et en fait, là, très vite, j'ai un de mes meilleurs amis qui me prend à partie un peu de manière paternelle et qui me dit, voilà, Solal, tu te déconnes total. Et en fait, il va organiser une sorte de mini kidnapping. J'ai rendez-vous avec mon père à 13h. Et à 11h, je suis pour la première fois de ma vie en train de prendre de la coke. J'ai encore le goût de l'acier, le goût métallique de la cocaïne dans la bouche. Mais pour moi, je devais juste le voir, prendre des nouvelles, prendre du bon temps. Et en fait, c'était pas du tout l'objectif de mon père à ce moment-là. Derrière mon dos, il avait discuté avec mon ami et ils avaient préparé, enfin voilà, une sorte de porte de sortie pour moi. Et donc je rejoins mon père juste devant mon école. Mon père m'emmène directement chez le coiffeur parce que j'ai aucune gueule. En fait, je pense qu'il a peur en me voyant. Et le coiffeur à l'entrée dit à mon père, honnêtement, si vous n'étiez pas là, je ne l'aurais jamais accepté, vu la dégaine qu'il a. Donc, je pense que j'avais vraiment aucune tête, quoi.
On me coiffe, on me rase la tête, c'est déjà un peu mieux.
Et en fait, mon père me rapatrie à la maison. Et là, c'est le début de... C'est le début d'une autre période, du coup. Je suis extrêmement fatigué, donc je m'endors dans la voiture. Et en fait, je sais même pas où on va. Enfin, mon père me dit pas qu'on rentre à la maison. En arrivant chez mes parents, je suis safe. Enfin, je peux tout lâcher, quoi. Et mes parents savent pas trop quoi faire au début, forcément. Et ma mère, en fait, me conseille d'aller voir un psychiatre. Le psychiatre va me prescrire des antidépresseurs. C'est des cachets, je vais en prendre peut-être quelques jours, mais très vite, je vais refuser d'en prendre. Je pense que c'est une question d'ego à ce moment-là, parce que je sais que ça peut être efficace, mais je me dis tout de suite, voilà, je peux m'en sortir sans, il n'y a pas de souci. Je vais sortir de la dépression voilà, au printemps de sa première année d'école, et sans les médicaments.
Il reparaît à l'approche de l'été et on doit faire un stage en entreprise. Et en fait, Solal et moi, on a un peu fait du même bois parce que on cherche l'un comme l'autre un moyen de pas faire ce stage. Et on entend parler par un pote commun d'un plan pour travailler dans les vignes en Bourgogne. On est tous les deux séduits par le projet, on se dit go et on y va. Vers 8 heures, il fait déjà pas loin de 40 degrés, donc c'est un travail qui est assez rude. Et il consiste à cette période de l'année, à enlever les feuilles qui cachent le raisin et empêchent les grappes de prendre le soleil. À chaque fois, avec Solal, on se retrouve dans des rangées qui sont côte à côte. C'est-à-dire que moi, je m'occupe d'une allée de vigne et lui s'occupe de celle qui est juste à côté, donc on peut discuter et tout. Et surtout, je le vois avec la même nonchalance que j'avais vue le jour où on s'est rencontrés. Il a une espèce presque de grâce, en fait, dans ses mouvements. Il s'en fout tellement, il est tellement désinvolte que tout est léger. Je ne m'applique pas particulièrement dans le travail, mais lui, c'est vraiment scandaleux. C'est-à-dire qu'il enlève une feuille tous les 20 mètres. C'est un moment qui est hyper chouette. On a presque l'impression de vivre des vacances ensemble, quoi. Et donc, on apprend à bien se connaître. C'est là qu'on devient vraiment amis. Un jour, on est au domaine. On vient de finir de déjeuner. Et en fait, on a été invité par des copains à une teuf à Dijon. Pour moi, c'est une évidence absolue qu'on va y aller. Mais Solal me dit « Ouais, non, moi, je peux pas. Faut que je rentre à Paris. J'ai un truc à faire. » Je trouve ça très énigmatique et surtout, je comprends pas. Je lui dis, mais attends, mais on est bien là. Enfin, je comprends pas. Il fait beau, c'est trop bien. Les copains, ils sont trop sympas. Vas-y, viens, on y va, quoi. Et il me dit, ouais, non, bon, bah, je vais voir, mais il faut que j'appelle ma mère. Et j'assiste au coup de téléphone. Et là, le personnage solaire et transgressif que je voyais dans Solal s'effondre. Il est au téléphone avec sa mère et il se mue en un ado qui essaye de négocier pour qu'on puisse... le laisser vivre sa vie. Moi, je comprends pas parce que j'ai des parents qui ont toujours été assez permissifs avec moi, c'est-à-dire qu'ils m'ont jamais emmerdé ou interdit d'aller à des soirées ou quoi que ce soit. Et je comprends pas ce qui se passe. Parce qu'il dit « Allez, maman, s'il te plaît. » Et vraiment, j'ai l'impression qu'il a plus son âge. Je comprends pas. Et moi, j'ose pas demander ce qui s'est passé. Et lui est assez discret. Donc, il me dit pas, en fait, la raison pour laquelle il a dû négocier avec sa mère. Moi, je demande pas, j'ose pas. Mais je sens qu'il y a un truc qu'il me dit pas, en fait.
Moi, je peux pas parce que j'ai une séance de thérapie familiale avec tous les membres de ma famille nucléaire, donc mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, à Paris ce week-end. Chose qui était prévue depuis très longtemps. À ce moment-là, mes parents divorcent, ma sœur va pas très bien. Voilà, c'est un peu le bordel dans la famille. J'ai vraiment les boules parce que voilà, à ce moment-là, en Bourgogne, tout est au beau fixe. C'est vraiment une bonne ambiance. Et donc, je retourne à Paris. Cette séance de psy familiale va s'avérer être extrêmement bénéfique pour tout le monde, ça va faire du bien à beaucoup de, enfin, à toute ma famille. Ma mère est inquiète vis-à-vis de mon état d'excitation et la dépression qu'on a suivie, parce que ça lui rappelle en fait énormément l'état de son frère, Philippe, qui lui, à peu près au même âge, a été diagnostiqué bipolaire, maniaco-dépressif, et a failli en mourir en fait. Quand il avait à peu près mon âge, il est parti à Hong Kong avec sa récente épouse. Et il voyait un psychologue qui était un peu un escroc, un trader qui faisait ça sur ses heures de loisirs. Et on ne sait pas trop comment ça s'est fait. Il est tombé ou a sauté du cabinet dans la tour où les traders étaient. Et bon, par chance, Il n'est pas mort sur le coup, il est retombé sur une sorte de parapet, et puis il est retombé sur des parasols au rez-de-chaussée. Et en fait, il est resté dans le coma à ce moment-là pendant plusieurs mois, et c'est le moment où ma mère était enceinte de moi. Ma mère est très inquiète parce qu'elle se dit que forcément ça va avoir un impact sur son bébé qui est dans son ventre. Et donc forcément, quand je commence à faire une dépression précédée d'une phase d'excitation, ma mère en fait me dit « Là, franchement, il faut que tu retournes voir ton psychiatre, il faut que tu fasses des examens plus poussés. » Je me sens pas anxieux quand je vais au centre expert bipolaire de Versailles. J'y vais pas à contre-cœur, mais je suis pas hyper content d'y aller non plus. Je sais bien qu'il se trame quelque chose. Ça fait deux fois que je finis en PLS, exténué, puis je s'en suit une dépression. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et j'ai aussi un peu envie de savoir ce qu'il en est, en fait. Donc à ce moment-là, on me propose de prendre des médicaments, du lithium, qui est un régulateur d'humeur, que me propose des prescrits mon psychiatre, et je vais tout de suite refuser. Toujours cette même question d'ego qui fait que j'avais déjà refusé le séroplex. À ce moment-là, je me dis « ma maladie n'est pas si grave que ça, je peux m'en sortir sans, une hygiène de vie irréprochable doit suffire. » Donc pas d'alcool, pas de cigarettes, etc. Enfin, pas de substances, un sommeil meilleur, du sport, etc.
J'apprends que Solal est bipolaire dans la foulée du diagnostic. À vrai dire, je sais pas tellement ce que ça veut dire. Je sais pas tellement ce que c'est que d'être bipolaire. Peut-être que ça éclaire quand même certaines zones d'ombre du personnage, mais je cherche pas tellement à me renseigner sur ce que c'est que la maladie, et en fait, surtout, je lui demande pas tellement de détails. En gros, quand on se voit avec Solal, c'est pour se marrer. Ce qui fait que la gravité, le sérieux, finalement, on cherche en général à l'éviter. Donc je pose pas tellement de questions, et finalement, je sais pas ce que ça implique, le fait d'être bipolaire, pour Solal. Une après-midi, on est en juin 2019, et je viens de finir mes derniers partiels d'étudiant. Donc je suis avec d'autres très bons copains qui sont aussi des copains de Solal. Et on se pose dans la cour de notre école. Il fait un temps radieux, on se cale sur les tables avec des pintes de bière. Et c'est un moment important de notre vie quand même, parce que c'est la fin de la vie étudiante. Ça fait un an que j'ai pas vu Solal. Il a passé toute l'année qui vient de s'écouler à Saint-Rémy-les-Chevreuses, chez ses grands-parents, à travailler dans leur magasin bio. Solal n'a pas, comme nous, passé ses derniers partiels d'étudiant parce qu'il a redoublé deux fois. Donc il se pose à notre table, on est hyper content de le voir parce que ça fait des plombes qu'on ne l'a pas vu. Et donc la conversation évolue un peu, et puis au bout d'un moment, je lui dis « Mais je ne comprends pas, est-ce qu'en fait, ce n'est pas plus sain de passer un peu de temps avec nous, de boire une bière, pas mille, que de se priver complètement de façon monastique ?» Je me dis « Ouais, ok, on va voir ce qui se passe. Peut-être que c'est bien, peut-être que ça va te faire du bien en fait de passer une soirée avec tes potes et puis si ça veut dire boire une bière, est-ce que c'est très grave quoi ?» Comme la conversation évolue, au bout d'un moment, il dit « Ouais, allez, tu sais quoi, t'as peut-être raison. » Et il boit une bière. Donc ça fait un an qu'il n'avait pas bu. On continue à discuter, à se marrer. Puis en fait, il boit une deuxième bière et puis après une troisième. Et puis après, on arrive à ce moment de la journée ou du début de soirée où qui appelle un peu une transition, ça fait 3 ou 4 heures qu'on est posé là dans la cour, et moi je dis « Bon bah les gars, je vais retrouver des potes sur les quais de Seine. » Et Solal dit « Vas-y, je suis chaud, je viens avec toi. » On va sur les quais près de Notre-Dame, on retrouve ma bande de potes du 14e. On a plein de bouteilles, on se pose sur les quais, il fait encore assez beau, même si le soleil commence un peu à baisser dans le ciel. On se cale comme ça, comme tous les autres jeunes, sur les pavés. Je reste pas mal avec mes potes, alors que Solal, lui, va un peu de groupe en groupe, il se lève, il va taxer une cigarette, il va boire une bière avec des gens, il pose des questions, il se fait des potes, puis après il revient un peu à la base dans notre groupe, puis il repart. Ouais, je retrouve le Solal tel qui me fait marrer, le Solal avec qui j'ai la plus de facilité à rire et à échanger en fait. Donc ça me fait quand même plaisir de le voir comme ça rayonner à nouveau, retrouver cette forme d'aisance qui, pour moi, l'a toujours caractérisé. Là, il est là, il est de retour pour moi. On va dans un club à l'est de Paris. On arrive devant, il n'y a personne. La musique est nulle. L'ambiance est nulle. Enfin, au bout d'un moment, je dis à Solal, bon, vas-y, frérot, je vais y aller, je rentre chez moi. Il me fait, ouais, vas-y. Je dis, tu veux pas rentrer? Il me fait, non, t'inquiète, je vais rester. Je dis, t'es sûr? Il me fait, ouais. Et puis bon, en fait, je le laisse avec mes potes. Et puis moi, je rentre chez moi. Thank you.
stage jusqu'à pas d'heure. Et ça va être le début d'un été totalement alcoolisé, où en fait je me relance clairement dans une phase haute. Ça va s'accélérer voilà, au fur et à mesure de l'été et après l'été. C'est vraiment vers l'automne où je démissionne de mon taf. À ce moment-là, tout s'accélère. Ma mère me dit « Solal, tu es un nuage, tu laisses porter trop facilement. » Et à ce moment-là, un de mes meilleurs potes, Pierre, me propose un voyage aux Canaries, à Fuerteventura, donc un surf trip de 2 semaines. Dès le début, il y a déjà des pressignes qu'on va déconner. On loupe notre premier avion parce qu'on s'est mis une caisse la veille. On arrive par un TGV Max pour Lyon et un vol par Lyon, finalement arrivé à destination. Donc on arrive sur cette île. On est en janvier, février, il fait extrêmement beau. Moi, je suis surexcité à ce moment-là. La veille de mon départ, j'ai dormi 3 heures parce que j'étais avec une nana. Je dors très peu. Je suis pas dans mon état normal. Pierre fait moins la fiesta que moi. Mais moi, j'ai envie de rider toute l'île. J'ai envie de rencontrer tout le monde. Je parle à tous les gens de notre surf house. Et en fait, le troisième jour de notre séjour, j'ai envie de découvrir un peu la ville. Donc, je pars tout seul rider un peu. Je m'achète un skate parce que j'avais hyper envie de m'acheter un skate, achat impulsif, je m'achète des fringues parce que je suis venu juste avec un mini sac à dos Eastpak où j'avais 2 t-shirts. Donc voilà, je fais des emplettes, je parle à un tatoueur qui comprend rien à ce que je lui raconte parce que je lui parle d'énergie, des bonnes vibes, etc. Je tape en foot avec des gamins, je vais au skatepark, voilà, je fais le tour de la ville. Et le soir, on s'était donné rendez-vous à un bar tenu par un Italien où il y avait un concert. Je vague entre les tables. Je parle un peu à tout le monde, je m'amuse avec un gamin que je pose sur mon skate. Pierre a envie de rentrer parce qu'il veut surfer. Voilà, lui est clairement venu pour le surf. Moi, je suis venu un peu pour ça, mais voilà, pas uniquement. On rentre tous les deux à la surf house et en fait, j'ai envie de ressortir parce que j'avais rencontré des musiciens qui me disaient qu'il y avait un autre concert. Donc je ressors. Ces musiciens avaient fini leur concert. Je bois juste un verre avec eux, je ressors. Et donc je continue comme ça jusqu'à 5, 6, 7 heures du matin. Juste avant le coucher de soleil, je me dirige pour rentrer vers la surf house et à un moment j'escalade un étage au-dessus d'une boutique en me disant tiens je vais me reposer, je vais faire un petit somme avant de profiter du lever du soleil. Donc je m'assois les fesses sur une climatisation, les pieds sur la rambarde qui pendouille en fait à l'extérieur. Je me souviens d'une sorte de barrière en verre en fait qui sépare 2 établissements commerciaux au rez-de-chaussée et en fait j'escalade entre les pots de fleurs qui sont sur cette barrière. Donc, pot de fleurs en pot de fleurs, je monte sur l'étage de ce bâtiment en pierre qui est pas très beau. En fait, c'est la rue commerçante de la ville qui est pas très jolie. Je me pose sur cette terrasse. Je vois pas de propriétaire. Les volets sont fermés. Je me dis qu'il y a personne. Donc, je suis assez tranquille à ce moment-là. Je suis pas très, très loin de la maison. Et donc, c'est pour ça que je suis assez confiant sur le fait que voilà, je vais faire ma petite sieste. Mais je suis pas perdu. Je suis pas loin. Dès que le soleil se lève, je me tape les 500, 600 mètres qui restent et je rentrerai à la casa, quoi. Et donc, je m'endors là. Cette terrasse du premier étage, c'est la dernière vision que j'ai. Après, c'est le noir complet.
J'apprends la chute de Solal dans notre groupe Messenger de potes. On est 5 ou 6 potes à avoir un groupe Facebook dans lequel on s'écrit régulièrement et depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Et un jour comme ça, sans transition, sans contexte, il nous écrit « Chute de 5 mètres ici, mâchoire, jambe fracturée, opération à venir », enfin quelque chose du genre, avec une ponctuation bizarre, sans point. J'ai l'impression que mes potes, mes autres potes du groupe, réalisent pas trop, mais moi j'ai une grande conscience de la pesanteur de ce que vient de lâcher Solal, notamment parce que un de mes meilleurs amis a vécu une chute très similaire à peu près 8 ans auparavant. Je fais le lien entre la soirée de juin 2019 où, par ignorance, par bêtise, je l'ai plus ou moins inconsciemment incité à boire une bière, et cette chute. Commence à naître une forme de culpabilité, mais qui est d'abord très diffuse et qui s'installe pas tout de suite. C'est là, dans un coin de ma tête, les deux événements sont liés pour moi parce que, après cette soirée de juin, en fait, il a retrouvé la joie de faire la fête. Et en fait, il s'est lancé dans une espèce de soirée sans fin qui a duré 6 mois. Il est sorti tous les soirs pratiquement pendant 6 mois, jusqu'au moment de la chute. Je ne sais pas si c'est une forme de déni de ma part de ne pas voir directement ma place dans ce qu'il a vécu, mais petit à petit, je me dis, mais au fond, est-ce qu'il serait tombé du balcon si j'avais pas été là ce soir de juin, ou s'il n'avait pas été là ce soir de juin, en fait ? dans les jours qui suivent la chute, je suis clairement le premier à lui envoyer des messages, à lui demander des nouvelles, à savoir, enfin essayer de savoir comment va aussi son moral et pas seulement sa reconstruction physique. Je sais que si on s'était pas vu ce soir de juin, s'il n'avait pas bu cette bière, ben clairement tout se serait passé autrement.
Dès le premier jour ou le deuxième jour dans ce grand hôpital, je comprends la gravité de mon état. On m'a montré ma tête, j'ai des égratignures, j'ai les dents pétées, on m'a dit que j'allais avoir de la chirurgie à plusieurs endroits, on m'explique qu'il va me falloir un document pour pouvoir rentrer en France et prendre l'avion. Ça me met un coup au moral. En plus, je ressens beaucoup de douleur, même si je suis sous morphine non-stop. Je parle pas espagnol, donc je comprends rien ce qu'on me dit, je dois marcher... en béquille, alors que j'ai les deux genoux pétés, je me sens hyper con. Je me dis même pas qu'en fait, qu'un de mes potes, que Louis, puisse se sentir coupable. Pour moi, le seul coupable de cette phase haute, c'est clairement moi, c'est clairement ma maladie. Je m'entraîne tout seul dedans. C'est pas lui qui me fait boire jusqu'à pas d'heure avec n'importe qui fait ça pendant des mois. Je suis rapatrié en France, à l'hôpital de Toulouse, juste à côté de là où habite mon père. Et c'est là que ma reconstruction va commencer. Pendant cette période, j'ai eu des projets différents. À l'hôpital, j'ai commencé à réviser pour l'agrégation d'histoire-géo. Finalement, ça me plaît pas parce que c'est beaucoup trop fermé comme révision. Ensuite, je commence à me dire que j'ai envie de faire les commandos de la marine. Je me mets à corps perdu dans la reconstruction physique, dans l'idée de passer les tests de l'armée pour être fusilier marin et ensuite devenir commando marine. Toute ma reconstruction va passer par le sport. Enfin, je fais 2,5 km de piscine, je fais une heure de footing, plus une séance de musculation. Et je fais ça tous les jours pendant 2 ou 3 mois. Finalement, ma convocation pour les tests de l'armée ne vient pas. Et à un moment, après 6 mois de reconstruction à Toulouse, entre rendez-vous médicaux, 20 rendez-vous de dentiste, mon passage de permis et ma reconstruction, j'en ai un peu marre. Quelques mois plus tard, va naître mon idée de tour du monde, une sorte d'excitation saine qui va monter et qui me fait dire en fait, ok, là j'ai un projet qui me plaît, qui m'excite, c'est sain. Ça me paraît tout naturel. Moi, je fais de la marche tous les étés avec ma famille depuis que je suis gamin. C'est évident que je dois me lancer là-dedans. Ça, c'est en février 2021. Et en fait, ça va aller très vite. En une soirée, j'ai mon tracé de la France jusqu'en Iran. Au bout de 2 mois, j'ai tout mon matos et je suis prêt à partir.
La veille de son départ, il est avec moi et ma bande de potes du 14e. On fait une fête. C'est un schéma classique. On est une vingtaine dans un appart. Il y a du son très fort, on boit beaucoup, on fume des cigarettes. C'est irrespirable, en particulier chez ce pote-là. Il y a de la vapeur dans tous les sens. Et lui, Solal, il est complètement sobre, il boit pas un verre, il boit du coca et il fume pas de clope. Pour autant, il se marre, il reste jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, comme nous, comme s'il avait bu 15 verres, quoi. Il est hyper à l'aise, où il redevient le Solal que je connais, quoi. Il a pas besoin de boire pour ça et il est naturellement là... le personnage à qui tout le monde parle, parce qu'évidemment, on parle beaucoup de son tour du monde. Putain, le mec va faire un tour du monde à pied qui est censé lui prendre 7 à 8 ans. Et donc, ben, comme ça, un peu comme lors de notre première rencontre, il accapare naturellement l'attention. On se quitte comme ça et je suis assez ému. Je suis assez ému et surtout, je suis impressionné, quoi. Je lui trouve une force considérable parce que d'abord, il part faire un tour du monde à pied, ce qui déjà est ouf. Mais en plus, un an et demi avant, il avait les deux bras, les deux jambes brisés, traumatisme crânien, la mâchoire fracturée. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans la quête de liberté que de se dire « je vais faire le tour du monde et je vais le faire à pied, et puis j'irai où j'ai envie de marcher ». Je suis fasciné et je me dis « bah évidemment, ouais, moi j'aimerais bien faire ça ». Un peu plus tard, donc en septembre ou en octobre 2021, j'ai une forme... d'épiphanie, c'est très étrange, une sorte de révélation nocturne. Je me réveille comme ça en plein milieu de la nuit, je me redresse et je prends mon téléphone. J'écris à Solal à 3h41 du matin, frérot, idée qui me réveille au milieu de la nuit, est-ce que tu veux que j'écrive un livre sur toi ?
Forcément, ça a changé notre relation, parce que déjà on s'est mis à se parler tout le temps, donc ça a été la personne avec qui je parlais le plus pendant tout mon tour du monde. Et c'est la personne qui va finir par me connaître super, super bien, quoi. On était très potes, hein, parce qu'on s'est quand même extrêmement marré en école, notamment dans les vignes. Mais là, en fait, c'est vraiment un stade au-dessus. Maintenant, il me connaît, il connaît mon intimité, il connaît mon histoire familiale, il connaît l'histoire de mon oncle, Donc forcément, c'est une relation qui est différente. Je pense qu'il y a de l'affection, il y a de la bienveillance, évidemment. Ouais, c'est devenu encore une plus belle histoire que ça l'était, quoi. Moi, je suis dans mon tour du monde. Avoir une présence comme ça française, pratiquement tous les jours, c'est trop bien. Ça a été un des plus proches de moi pendant tout ce voyage.
Ça me plaît aussi de mener un peu une forme d'enquête sur lui. Ça me plaît d'apprendre à connaître mon pote, mais comme un frère, peut-être même mieux qu'un frère. En fait, j'accède à une telle connaissance de lui-même que je deviens capable de le corriger sur ses propres souvenirs. Parce que ses parents m'ont tous les deux raconté un épisode. Et puis au moment où Solal va m'en parler, je lui dis non, mais par contre, c'était pas en telle année, c'était en telle année. Et on se marre, on dit que je deviens l'arbitre de ses souvenirs. Au fur et à mesure, je prends vraiment conscience des similarités qui sont les nôtres. Et moi, je pense avoir une façon d'être au monde qui est assez proche de celle de Solal. C'est-à-dire que j'ai des hauts et des bas qui sont assez marqués. Mais voilà, moi, j'ai des fluctuations d'intensité qui me paraissent, mais juste empiriquement, parce que je regarde autour de moi, plus fortes que celles de pas mal de mes potes, par exemple. Donc en Solal, je me retrouve beaucoup. Et il y a même des sensations qui me décrit que moi, j'ai l'impression d'avoir déjà éprouvé. Donc je me sens très proche de Solal pour ça. J'ai aussi enquêté sur ce que ça voulait dire d'être bipolaire, donc je deviens capable de repérer les signaux qui ont trait à la bipolarité. On est donc à la fin de l'hiver, Solal, lui, arrive en Bulgarie, et je commence à recevoir de plus en plus de messages de sa part. Il me raconte beaucoup de fêtes, en fait il s'installe à Sofia pendant quelques semaines, il recommence à faire la fête, il m'appelle à des heures impromptues... On passe des temps assez longs au téléphone, mais il me raconte des histoires avec des personnages que je connais pas. Il me cite des noms comme ça, comme si j'étais censé les connaître. J'ai du mal à le suivre. Je me dis, ok, là, c'est le début de l'euphorie, de l'excitation. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Où est-ce que ça peut l'emmener? Est-ce qu'il va tomber du balcon? Il est convenu à ce moment-là que je vienne le voir à un moment de son périple, mais rien n'a été figé. Et là, je me dis, ok, en fait, c'est une évidence, il faut que j'y aille maintenant. Il faut que j'aille le retrouver en Bulgarie et il faut que je le tire d'affaire. Pour autant, j'ai aucune idée de ce que je vais trouver à Varna et j'ai aucune idée de comment faire pour le tirer d'affaire. Je sais même pas tellement ce que ça veut dire. Peut-être que s'il reprend sa marche, ça ira, mais est-ce que je vais lui parler? Est-ce que si je lui parle, comment? Quand il est dans une phase haute, c'est très difficile de lui faire entendre qu'il est dans une phase haute parce qu'il se sent tellement bien qu'il se braque. Quand on essaie de restreindre comme ça son bonheur, mais je continue à me dire que j'aurai un rôle à jouer à Varna. Mon train arrive à Varna en provenance de Sofia, donc on ralentit à l'approche du quai. Moi, je me mets à la fenêtre et à un moment, je vois Solal déambuler parmi la foule avec ses enceintes portatives qui crachent du rap à fond. Et il hurle, il a un sourire étrange, les yeux plissés. Dès qu'il me voit, il éclate de rire. On va dîner dans un restaurant turc avec une belle véranda, une vue assez sympa. Sur la mer, on se fait un festin, et donc bah, on s'est pas vu depuis un moment, depuis plus de 6 mois. Après même pas 3 minutes, il me dit « Ouais, j'arrête le tour du monde, c'est trop bien ici, en fait, je m'installe là. » Je dis « Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. » Je dis « Si, j'arrête. En fait, j'ai trouvé un taf. Mais quoi? Mais quel taf? Je comprends pas. Tu viens d'arriver. » Il fait « Ouais, je trouve un taf dans un club, dans une boîte, et le mec, le patron, il va me promouvoir, je vais devenir directeur artistique de la boîte. » Je dis, mais c'est lunaire, t'étais là depuis même pas 2 semaines. Il me fait, ouais, non, mais je te jure et tout. Du coup, trop bien. Après, je dis pas que je vais m'installer là à vie, hein, mais je vais rester là 6 mois, ça va être top. J'essaie de le raisonner, je lui dis, non, mais attends, t'as des gens qui te suivent, t'as des gens qui te donnent des sous sur ta cagnotte parce qu'ils soutiennent ton tour du monde à pied. Tu les abandonnes comme ça pour bosser dans une ville que tu connais pas, où tu connais personne. C'est trop bizarre, mec. Moi, en fait, je suis un peu sonné par la conjonction de... sa tête, son énergie, son excitation, cette euphorie dans laquelle j'arrive pas trop à trouver place, et puis le fait qu'il arrête son tour du monde à pied, je suis un peu abasourdi en fait. Et donc c'est pas le moment où je me dis ouais, je vais avoir cette discussion sérieuse avec lui pour le tirer d'affaire. Je cherche ce moment-là en fait, et tout au long du week-end je vais le chercher. Finalement, on se lance dans un week-end de fête. Comme je sais qu'il se braquerait si jamais je le confrontais et que je lui disais « Écoute, là, ça va pas du tout, il faut que t'arrêtes, t'es en train de surchauffer. » eh ben, je décide de me faire un peu son allié, en quelque sorte. C'est-à-dire que je le freine pas dans cette euphorie, et au contraire, j'essaie de me mettre un peu à son niveau, et donc je le brosse dans le sens du poil, en fait, en cherchant le bon moment où je pourrais lui parler pour lui dire « Écoute, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche, quoi. » En fait, je suis quand même hyper heureux de le retrouver, et heureux à l'idée qu'on passe un week-end à se marrer, à s'amuser, quand même. C'est pas non plus une contrainte absolue que de me mettre au diapason et de le suivre un peu dans sa pérégrination, là, à Varna. Et en même temps, je suis quand même très préoccupé, et j'ai du mal à me mettre à son niveau. Et il y a une forme d'amertume. On fait la fête, on boit et tout, mais une forme d'idée obsessionnelle qui tourne en boucle, qui est « Putain, mais comment je vais faire pour le tirer de là, quoi ?» Le samedi soir, on va dans la boîte où il est censé devenir directeur artistique. La soirée se passe bien, mais voilà, comme la veille, j'ai un peu de mal, en fait, parce que je vois bien dans quel état il est. Il bouge, il tient pas en place, il va partout dans la boîte parler à tout le monde, et puis il se permet vachement, il est un peu trop à l'aise, en fait. Hein, un peu comme s'il était le maître des lieux, le patron du club, quoi, alors que pas du tout, il y a depuis 2 semaines. Il est assez lourd, en fait. C'est chiant de devoir s'occuper d'un gars comme ça. En fait, j'aimerais bien juste faire la fête, pas avoir à me soucier de lui, mais je peux pas. Finalement, avec Solal, on sort du club. Le jour commence à se lever. On met du son sur son enceinte et on marche vers notre auberge. On marche dans les rues de Varna qui sont complètement vides. Et lui, il a toujours cette espèce de sourire de joker. J'arrive pas, en fait, j'arrive plus à rigoler, j'arrive plus à faire semblant. J'arrive plus à faire semblant d'être son allié et de trouver le bon moment de lui parler. Là, au petit matin, il doit être 7 heures au moins, nos regards se croisent et je ne sais pas dire pourquoi, mais soudainement, je suis persuadé que ça va aller, en fait. Lui-même, il commence à se dérider un petit peu parce que c'est un moment très doux. On a mis sur l'enceinte une recomposition des 4 saisons de Vivaldi par Max Richter qui dénote pas mal avec tout le rap qu'on a écouté tout le week-end. Et en fait, c'est un moment de grâce absolue où le soleil commence à être assez haut dans le ciel. En même temps, il y a encore des reflets violets dans les nuages. Il y a des mouettes qui volent. On marche côte à côte et on parle plus. Solal arrête de rire mécaniquement et de dire n'importe quoi. Et il naît de cet instant un calme, mais je sais pas, qui est presque ésotérique, quoi, en fait. On se regarde, on sourit, et je me dis, putain, mais en fait, ça va aller. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai pas besoin de lui parler. Trop de gens ont essayé de lui parler déjà avant moi, et on pas réussi, enfin sa mère notamment, quand elle lui dit « Solal, tu es un nuage, tu te laisses balader par les vents trop facilement », ce qu'elle essaie de lui dire, c'est « tu accélères », mais Solal, il s'en fout. Je vois pas pourquoi moi, à ce moment-là, j'aurais plus de légitimité ou plus de, je sais pas, de justesse. Y a pas de raison. Et au fond, je me dis que ce que j'ai à lui apporter, c'est comme ça un soutien amical qu'il avait pas eu depuis son départ en tour du monde. Et en fait, par ce regard qui est le sien, je perçois de façon un peu mystérieuse le fait que finalement, ça va aller, quoi. Et en vrai, je me dis que j'avais un peu tout faux. Enfin, c'était complètement illusoire de penser qu'on se poserait tous les deux dans un moment de calme. Le lendemain, on se réveille dans une gueule de bois pas possible. Et Solal est tout calme. Il a plus cette énergie qui fait qu'il tient plus en place. Et dès les premières heures après le réveil, il me dit « plus jamais je remets un pied dans cette ville de merde ». Alors que 48 heures avant, il voulait s'installer à Varna pendant 6 mois et devenir directeur artistique d'une boîte de nuit.
Le dimanche soir, après la fin du week-end, quand chacun se sépare, Louis monte dans un train et moi je passe ma dernière nuit en auberge de jeunesse, je lui dis clairement, faut vraiment que je quitte, cette ville de merde, plus jamais je mets un pied dans cette ville de merde. Et je pense que ça l'a rassuré lui, et moi en fait je l'ai senti, quoi. J'ai senti qu'il fallait que je me barre, c'était nécessaire, qu'il fallait que je reprenne la marche. C'est vital, en fait. Autrement c'était dangereux que je reste dans cette ville.
Solal est en Asie du Sud-Est, il arrive à Bangkok, et moi je reçois à nouveau des messages qui me laissent peu de doutes sur l'état dans lequel il est. Je le connais trop bien maintenant, je sais que c'est une nouvelle phase de surchauffe et d'excitation. Et là, je ressens un profond abattement. n'y a pas, comme plus d'un an auparavant, l'idée chevaleresque de me rendre là-bas, de le sauver. Là, je suis abattu parce qu'en fait, je réalise vraiment que c'est une maladie et que mon pouvoir d'action, il est extrêmement limité. Si ça se trouve, c'est même pas moi qui l'ai sauvé à Varna, j'en sais rien. En tout cas, je me dis, mais je peux rien faire en fait. Je suis le premier type que Solal voit en sortant de l'avion. Il vient direct chez moi avec son père, parce qu'après ils ont un train à Montparnasse et moi j'habite pas très très loin. Et ils viennent tous les deux, ils prennent une douche, et après on va se caler, on va boire un café tous les trois. À vrai dire, j'ai pas tellement l'impression que Solal est complètement incontrôlable et surexcité. Je suis surtout heureux de le voir. Je me dis évidemment qu'il est mieux en France, entouré par sa famille, que seul à Bangkok, dans les rues de l'enfer, à faire la fête tous les soirs. Et je suis hyper heureux de retrouver mon pote, en fait. Et donc, on déjeune ensemble, en terrasse, vers Nation, à Paris. Et au bout d'un moment, il me dit en fait, j'en ai ras-le-bol de faire les montagnes russes comme ça. J'en ai trop marre. Et je me suis senti plein d'optimisme à son égard. Je me dis, mais putain, c'est trop bien pour lui, en fait. D'abord, je trouve que le fait qu'il se dise bon, bah ok, en fait, ouais, je suis bipolaire, moi, c'est comme ça, il y a des traitements qui existent, je vais en prendre un. Ça veut dire qu'il est dans une phase où il a envie de calme. Ça veut dire qu'il est un peu plus sage. J'ai confiance dans le fait que la solution médicamenteuse, elle existe, quoi. Et donc, le fait que je le trouve plus calme, le fait qu'il y ait comme ça les médicaments qui vont pouvoir réguler un peu son état, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Je me sens plus tellement investi d'un rôle quelconque vis-à-vis de lui et de sa bipolarité parce que j'ai réalisé que c'était naïf, présomptueux, peut-être même un peu déplacé d'avoir ce regard-là sur lui. C'est-à-dire de vouloir essayer de le changer. Au fond, je crois qu'il faut accepter, reconnaître sa fragilité, sa grandeur aussi, le prendre voilà, dans son entièreté. Je suis rien d'autre qu'un de ses meilleurs amis. Et je crois que tout ira bien tant qu'il sera entouré comme ça de gens qui tiennent à lui et qui souhaitent son bonheur.
Cet épisode de Passage est de Louis Vandel. Merci à Louis Tavera pour l'enregistrement et le montage. La réalisation et le mix ont été faits par Alix Lachiver. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.